VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
9h à Washington, bonsoir, bienvenue. On commence par le Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a publié aujourd'hui un nouveau calendrier électoral reportant les législatives et communales au 29 juin et la présidentielle au 15 juillet, initialement prévue le 26 mai. Les élections législatives avaient été reportées une première fois au 5 juin, puis s'inédier la veille du scrutin, rendant incertaine la tenue de la présidentielle comme prévu le 26 juin. Le président Pierre Nkurunziza, vous le savez, est confronté depuis un mois et demi à une contestation contre sa candidature pour un nouveau mandat. Au Rwanda voisin, la campagne pour un troisième mandat du président Paul Kagame continue malgré l'opposition de certains groupes comme le Parti social Mberakuri de Maître Bernard Ntaganda. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Kigali, Bagassi Koura, qui a rencontré Wilson Ali Kayitare, l'un des initiateurs de la pétition en faveur d'une modification de la constitution rwandaise afin de permettre un nouveau mandat du chef de l'État.
Ici, on parle de près de 4 millions de signatures recueillies en quelques semaines. Le but, signifier clairement aux parlementaires qu'il faut modifier la constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ce dernier au pouvoir depuis plus de 20 ans achève en 2017 son second mandat à la tête du pays. Wilson Ali Kayitare est un cadre de banque à Kigali. Pour ce jeune homme élancé en costume cravate, les raisons pour maintenir Kagame au pouvoir ne manquent pas.
Nous venons de très loin. Nous n'avions rien, pas de route, pas d'hôpitaux. Et même en 1994, il n'y avait pas de développement. Notre président nous a sortis de cette situation.
À l'en croire, tout commence par des discussions sur les réseaux sociaux. Convaincu des succès économiques du président Paul Kagame, lui et quelques amis décident de lancer fin mars une pétition demandant aux citoyens d'écrire pour demander aux parlementaires de modifier la constitution pour permettre à Kagame de se présenter en 2017.
On leur a dit, faites comme ça, écrivez des messages personnels au Parlement et celui-ci va faire comme vous voulez.
Il affirme que son groupe a recueilli plus de 250 000 signatures en 3 semaines. Selon les partisans du pouvoir, à ce jour, le Parlement a reçu près de 4 millions de signatures. Et pour Wilson Kayitare, ce processus qui est enclenché au Rwanda n'a rien à voir avec les modifications constitutionnelles tant décriées dans les autres pays africains.
D'abord, permettez-moi de faire la différence entre ces États et ce qui se passe dans notre pays. Les citoyens de ces pays ne veulent pas de leurs leaders parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ces gens se plaignent d'être en retard, de ne pas connaître de progrès. Pour moi, au nom de la volonté populaire, notre président doit continuer à nous diriger. Mais les dirigeants du Congo ou du Burundi doivent démissionner parce que leur peuple ne les veut pas.
Et si malgré tout, Paul Kagame, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question, décide de renoncer au pouvoir en 2017.
Cela ne me plairait pas, mais je ne pense pas que ça puisse arriver, parce que nous sommes comme une famille au Rwanda. Et si la famille demande un service à l'un de ses membres, celui-ci ne peut pas refuser.
À l'allure où vont les choses, tout laisse croire qu'on s'achemine sûrement vers un changement constitutionnel au Rwanda. Bagassi Koura, Kigali pour VOA Afrique.
Un gendarme malien a été tué aujourd'hui dans une attaque attribuée à des djihadistes à Misseni, dans le sud du pays, près des frontières ivoiriennes et burkinabées. Une première dans cette région, le gendarme a été identifié à l'AFP comme étant l'adjudant Bachaga Konem par un ministre sous couvert d'anonymat. Selon un élu local, une trentaine de djihadistes ont pris un temps le contrôle du camp militaire et tué donc le gendarme. En Côte d'Ivoire, procès du commandant Jean-Noël Abéi au tribunal militaire d'Abidjan. Le commandant Abéi, un pilier de l'appareil sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo, est poursuivi pour complot et désertion à l'étranger. Il avait pris la fuite après la crise post-électorale de 2010-2011 et avait été arrêté en février 2013 au Ghana, puis extradé en Côte d'Ivoire. Selon l'agence France-Presse, le commandant Abéi a déclaré hier au procès qu'il avait déserté uniquement pour sauver sa vie et non pas pour préparer un complot. Ma tête avait été mise à prix. On voulait m'assassiner, a-t-il dit, pour se défendre. Au total, 7 officiers fidèles à l'ex-président Gbagbo doivent être jugés par le tribunal militaire. Selon le parquet, ils risquent entre 3 ans et la prison à perpétuité. En Égypte, au moins 2 assaillants ont été tués aujourd'hui par les forces de sécurité près du célèbre temple de Karnak à Luxor, dans le sud de l'Égypte, dans une attaque qui a échoué à annoncer à la police à l'AFP sans plus de précision. Un policier a été blessé et deux autres assaillants ont été arrêtés, a expliqué un haut responsable de la police de Louxor qui est en train de désamorcer deux engins explosifs. Un responsable de local du ministère des Antiquités a assuré de son côté qu'un des assaillants a fait exploser une bombe qu'il portait sur lui à 500 mètres du temple, mais la police n'a pas confirmé. Selon la même source, la police a bloqué des touristes à l'intérieur du temple pour les protéger.
VOA Afrique en direct de Washington.
L'ONU Femmes vient de publier son rapport sur la situation des femmes dans le monde, lancé à Dakar au Sénégal. Le document évoque l'élaboration de politiques en vue de transformer les économies et de concrétiser l'égalité hommes-femmes. Pour plus de détails, Camille Gros-Didier a contacté à Dakar le docteur Joséphine Odera. Elle est la représentante régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Le rapport soulève plusieurs défis sur les lieux de travail, par exemple. L'écart salarial, où les femmes touchent beaucoup moins que les hommes, même pour le travail égal. Les femmes, pour la plupart, gagnent 24% de moins que les hommes dans le monde entier. Si on prend quelques exemples en Afrique de l'Ouest, le Cameroun, l'écart s'élève à 39%, alors qu'au Mali, c'est à 63%. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une discrimination contre les femmes. Il y a d'autres obstacles qui se posent. Selon les chiffres qu'on dispose, 75% des femmes se trouvent dans le secteur informel. Et là, c'est un travail qui n'a pas de protection sociale, où les rémunérations sont très faibles, où il y a même l'insécurité au niveau de la personne même, parce qu'il y a du harcèlement sexuel et d'autres dans le travail informel. Il y a d'autres défis qui se posent au niveau du travail, par exemple du travail domestique. Et là, ONU Femmes plaide pour les emplois décents.
Pour mieux protéger les femmes dans le travail, le rapport d'ONU Femmes préconise un mélange de mesures économiques et sociales grâce auxquelles les gouvernements pourraient justement promouvoir et protéger leurs droits.
Tout à fait d'accord. Si on prend l'exemple du travail domestique, là, il y a la Convention sur le travail domestique que certains pays ont signé, ont adopté, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ratifié la Convention. Par contre, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme est presque à 90% signée et ratifiée. Mais c'est la mise en œuvre de cela. Mais qu'est-ce que cela donnerait aux femmes comme bénéfice? D'abord, si certains travaux sont reconnus comme importants, si ce travail devient visible, les femmes seraient mieux rémunérées, les femmes auraient la protection sociale, ou bien les femmes pourraient aussi bénéficier des allocations ou bien des bourses familiales. Ça, c'est un travail de gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des politiques sociales appropriées et adaptées aussi aux besoins des femmes.
Docteur Joséphine Odera, elle est la représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes. Les leaders de 26 pays d'Afrique et de l'Est et du Sud signent aujourd'hui un traité de libre-échange à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'objectif, créer la zone tripartite de libre-échange qui regroupe 26 des 54 États du continent. L'ensemble comprend notamment des pays du COMESA, le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, et la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Les deux poids lourds économiques de la nouvelle zone de libre-échange sont l'Afrique du Sud et l'Égypte, mais le Nigeria, première puissance du continent, brille par son absence. L'Iran a de nouveau démenti ce mercredi la présence de troupes en Syrie pour combattre aux côtés de l'armée du président Bachar al-Assad, alors que des sources militaires syriennes ont rapporté l'arrivée récente de plusieurs milliers de combattants. Téhéran est le principal allié régional du régime syrien et lui fournit un soutien financier ainsi que militaire sous la forme de conseiller auprès des forces régulières, mais les responsables iraniens ont toujours démenti la présence de troupes sur le terrain. Et puis la lutte contre le groupe État islamique, le président Barack Obama devrait se prononcer peut-être dès cette semaine concernant le plan d'envoi de jusqu'à 500 formateurs militaires américains supplémentaires en Irak, et ce, dans le cadre des efforts du Pentagone pour renforcer les troupes irakiennes qui se battent contre les djihadistes. La nouvelle équipe se joindra aux 3000 formateurs et conseillers américains déjà sur place. Un mot de sport pour terminer. Le Mali, le Sénégal, la Serbie et les États-Unis se sont qualifiés aujourd'hui pour les quarts de finale du mondial des moins de 20 ans. C'est en Nouvelle-Zélande. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans environ 50 minutes, je vous retrouve pour un nouveau point de l'actualité. Merci et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.